Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans ce programme pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se dispute actuellement en Côte d'Ivoire. Et tout ce qui fait, on aura en direct d'Abidjan notre envoyé spécial Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous et bienvenue ici à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
Avec moi aussi, nos consultants, nos fidèles consultants. D'abord, Amine Birouk de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis nous avons joint Lawal Dine Kosovo depuis la capitale béninoise Porte Nouveau. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Africa.
Sporama, c'est parti. C'est le dernier carré de la 34e édition d'une CAN folle en émotion et en surprise. Et le pays hôte a une fois encore fait forte sensation en validant son ticket pour les demi-finales devant le Mali. Alors, Yacouba, ça a été un match spectaculaire.
Écoutez Élisée, ce match, ce quart de finale Côte d'Ivoire-Mali, au-delà du football, vous savez, il y a une tension politique entre les deux pays, là, de sorte que ce match avait beaucoup d'enjeux qui allaient au-delà du football. Fort heureusement, on va dire, hein, comme le coach malien Eric Chekouchel, heureusement que ça se jouait dans un stade dit de la paix de Boaké. La paix a prévalu dans la mesure où on n'a pas noté d'incident majeur après le match, mais vous l'avez suivi sur le terrain. La tension politique s'est fait sentir, la tension aussi footballistique s'est fait sentir. Les Maliens ont vite mis le pied sur le ballon, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Vous le savez, ils ont un milieu de terrain assez robuste et ils ont tout de suite bouffé Kessié et Seko Fofana. Le milieu est très expérimenté, hein, de la Côte d'Ivoire. Du coup, la défense ivoirienne était obligée de subir des assauts. On a eu d'abord ce pénalty sifflé pour le Mali, puis refusé pour hors-jeu dans la position de départ. Et ensuite, il y a eu ce carton rouge du côté de la Côte d'Ivoire, Kossounou, qui est coupé d'un deuxième carton jaune, transformé donc en rouge. Des faits de jeu assez difficiles pour les Ivoiriens d'entrée et qui ont facilité la tâche aux Maliens. Et vous l'avez également suivi, ce pénalty arrêté par Yaya Fofana, qui pour moi, hein, est le tournant du match dans la mesure où il a permis au bateau ivoirien de ne pas chavirer. Et vous l'avez vu justement, ce but magnifique de Néné d'origine ivoirienne qui a glacé le stade de la paix de Boaké, mais aussi qui a glacé toute la Côte d'Ivoire jusqu'à cette égalisation. Oui, cette égalisation de Simon Adingra entré en cours de jeu pour remettre les Ivoiriens sur les rails. Prolongation, tout comme cela s'est passé face au Sénégal. Puis ce but à la 122e minute signé Diakité, Oumar Diakité, sur une frappe, hein, de Seko Fofana, qui envoie toute la Côte d'Ivoire en extase et qui propulse les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale. C'est un scénario fou. Personne ne pourrait prédire, n'aurait pu prédire cela à l'avance. Je le disais, c'est un scénario totalement fou. Et vous le savez, hein, les Ivoiriens sont désormais habitués à ces matchs palpitants-là. Et comme on le dit ici à Abidjan, lorsque tu sais que tu es cardiaque, il ne faut pas suivre ce genre de match-là. Donc du coup, ça a été très intéressant en termes d'émotion, en termes de vibration, en termes même, hein, de football, pour ce qu'on a vu. Et ça n'a pas commencé seulement avec le Mali. J'ai vu que c'était beaucoup plus intense que ce qui s'est passé avec le Sénégal, par exemple, où ils sont partis au tir au but. Là, c'était beaucoup plus instant, gagné dans les dernières secondes du match. Écoutez, il y a pas meilleur scénario pour une équipe qui était presque éliminée de cette CAN-là et qui a été sauvée de justesse indirectement par le Maroc. Le Maroc d'Amine Birouk, malheureusement, qui est rentré après les huitièmes de finale. Et donc, c'est-à-dire que cette équipe de la Côte d'Ivoire, il faut compter avec elle. Ce match a été très intéressant en termes d'émotion, en termes de jeu. Ça a été du football total, il faut le reconnaître.
Comme face au Sénégal, les éléphants ont été poussifs en renversant les aigles. Jules, il faut avoir un mental de fer pour réaliser un tel exploit.
Il faut d'abord espérer, Élisée, que les Ivoiriens, par leur capacité à rebondir et leur acharnement à croire en leur chance jusqu'à la dernière seconde, méritent amplement d'être dans le dernier carré d'as de cette édition de la CAN à surprise, même s'ils ont eu à bénéficier d'un petit coup de pouce du destin à travers certaines décisions ou non-décisions de la VAR qui les auraient aidés à rester en vie. Mais ce ne sont que des détails, car la chance, il faut savoir aller la chercher. Un mental de fer étant indispensable pour renverser les situations à répétition. En demi-finale contre les Léopards de RDC, soucieux de revenir au premier plan après une longue éclipse, un match de guerriers les attend contre les derniers représentants de l'Afrique centrale. Après cette rencontre, il ne restera plus qu'un candidat pour espérer la passe de Troyes.
En demi, les poulains d'Emers Faye affronteront la RDC qui a sorti la Guinée, score 3-1. Amine Birouk, les Léopards avec leur état d'esprit ont su écarter le Sili National.
État d'esprit, une organisation, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'ambition au sein de ces Léopards. La sélection de la RDC est montée en gamme tout au long de la compétition avec un bel état d'esprit. On a vu surtout du talent. Bongonda, Bakambu, Wissa, bien évidemment d'autres talents comme le capitaine emblématique Chancel Mbemba. C'est une équipe très équilibrée sur toutes ses lignes qui a su monter en puissance depuis le début de la compétition. Ils étaient poussés face à la Zambie, plutôt approximatifs pendant 45 minutes face au Maroc, mais ils ont fini très fort. Peu ambitieux face à la Tanzanie à la fin du premier tour, mais contre l'Égypte en huitième et surtout contre la Guinée en quart, c'est une équipe de battants. C'est une formation qui peut alterner jeu de possession ou bloc bas, capable de partir en rupture contre la Guinée pour profiter de la lourdeur de la défense du Sili National. Et c'est peut-être cette stratégie que la formation de Sébastien de Sarre va adopter pour sa demi-finale. Le secret de la réussite, c'est aussi un sélectionneur qui a pris l'équipe pendant les éliminatoires de la CAN alors qu'elle venait de subir deux défaites lors des deux premiers matchs. La RDC était quasiment hors de la compétition, mais elle a su trouver, grâce à son état d'esprit, grâce à un entraîneur rassembleur qui connaît bien le football africain, des ressources pour se qualifier, puis pour se planter avec le maximum d'humilité, match par match, pour pouvoir chercher, bien évidemment, à aller le plus loin dans la compétition. Et aujourd'hui, ils sont récompensés de cet état d'esprit. Ils sont en demi-finale. Et l'appétit va certainement venir en mangeant. Et un léopard qui mange est un léopard qui n'est jamais rassasié.
Le Nigeria, sans être spectaculaire, a réalisé l'essentiel devant l'Angola. Lawal, les Super Eagles, trop critiqués avant la compétition, se présentent aujourd'hui comme sérieux prétendants.
Oui, prétendant au titre, c'est vrai que les critiques ont fusé de toutes parts pendant les éliminatoires et pendant les matchs amicaux. Mais pour qui connaît le Nigeria, on sait que c'est une équipe qui surprend chaque fois qu'on l'attend le moins. Et il faut peut-être compter avec ce Nigeria. Mais quand on regarde un peu les prestations des Super Eagles, on se rend bien compte qu'il y a forcément quelque chose qui doit s'ajouter à ce qui se fait. Le jeu n'est pas encore fluide, n'est pas encore assez cohérent encore. Comme on aurait aimé, comme le Nigeria qu'on a vu peut-être en 2004, je crois, face à la Zambie, ou comme le Nigeria qui a remporté en 2017 la Coupe d'Afrique. On n'a pas encore véritablement ces différents éléments pour le Nigeria. C'est vrai que Victor Osimhen pèse sur les défenses et il fait des appels sans ballon et ça convainc les défenseurs vers autre part. Mais fondamentalement, le Nigeria n'est pas encore la foudre qu'on espérait avoir. Mais face à l'Afrique du Sud, le Nigeria a forcément quelques chances à jouer parce que l'Afrique du Sud lui a souvent marché. Et quand le Nigeria est mené, c'est difficile pour eux de revenir dans un match. Donc, ils ont peut-être eu connaissance de leurs insuffisances et n'ont pas voulu montrer leurs lacunes face aux Angolais qui étaient assez vifs. Maintenant, l'expérience et le physique a forcément aidé le Nigeria. Mais vous allez voir que Victor Osimhen, sur la fin, a traîné les pas. Il n'était pas physiquement vraiment au point. Ce qui avait été dit avant ce match-là, qui l'a bloqué, on ne saurait le dire, mais fondamentalement, le Nigeria, par son expérience et par son ADN, a sûrement surplanté l'Angola, mais on aurait aimé voir un Nigeria plus grand, avec du beau jeu, ce qu'on n'a pas encore la chance d'avoir pour cette CAN.
Et pour remporter le trophée, il faudra d'abord battre l'Afrique du Sud en demi. Amine Birouk, les Bafana peuvent remercier leur gardien de but qui a éliminé à lui tout seul le Cap Vert.
Il s'appelle Ronwen Williams, il porte les couleurs des Mamelodi Sundowns et c'est certainement le meilleur gardien exerçant sur le continent. Spécialiste des tirs au but ou des pénaltys. On l'avait vu fringant avec Mamelodi Sundowns lors de l'African Football League, notamment contre Petro Atletico. On l'avait découvert également la saison dernière lorsqu'il avait empêché l'Hilal de se qualifier pour les quarts de finale et donner une deuxième chance à Ali, qui a su la saisir. Et on le retrouve avec les Bafana Bafana, c'est le pilier de cette équipe, c'est le cœur, le poumon. C'est lui qui a arrêté à lui tout seul les autres dernières offensives, les dernières banderilles, les Lions de l'Atlas, éliminés mardi dernier. C'est encore lui qui a récidivé face au Cap-Vert, avec notamment un arrêt exceptionnel à la Dibo Martinez, face au Requin Bleu, puis lors d'une série des tirs au but où il s'est montré maître et dominateur de son sujet, il a arrêté 4 tirs au but. C'est un record, toute compétition confondue. Et évidemment, face au coup de boutoir des Nigériens, il y aura un dernier rempart qui s'appellera Ronwen Williams, et pour l'instant, les Bafana lui doivent une fière chandelle, car c'est grâce à lui qu'il se retrouve dans le dernier carré de la compétition pour la première fois depuis 24 ans.
De belles affiches donc ce mercredi, et cela commence justement par un Nigeria-Afrique du Sud à Bouaké. Lawal, ce sera l'expérimenté Nigeria face aux revenants sud-africains.
Nigeria a forcément quelques chances à jouer parce que l'Afrique du Sud lui a souvent marché, et on espère avoir peut-être une finale Nigeria-Côte d'Ivoire, pourquoi pas, pour se relancer dans cette compétition, se rappeler un peu la deuxième journée donc des matchs de poule dans cette compétition. Une finale assez intéressante, en tout cas on le présume, mais les Sud-Africains ne vont pas vendre cher leur peau. Ils vont forcément montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et quand on observe un peu le jeu sud-africain, on se rend compte qu'il y a une certaine cohésion, ce qu'on n'a pas retrouvé chez le Nigeria et chez les Sud-Africains. Mais un cran au-dessus, les Sud-Africains vont forcément chercher à titiller le Nigeria, et c'est le meilleur qui va forcément l'emporter. Ne restons pas superstitieux, peut-être que l'Afrique du Sud va vouloir battre le signe indien, vaincre le signe indien. On attend de voir, mais ce sera un match très enlevé. Physiquement, les Sud-Africains sont assez tenaces, ils vont forcément titiller les Nigériens, et le Nigeria doit sorti le grand jeu s'il veut se retrouver en finale. Quand on regarde le passé du Nigeria, on doit pouvoir s'inquiéter. Mais aujourd'hui, le Nigeria n'est plus le Nigeria qu'on a connu sous les Rachidi Yakini, derrière les Mokashiou, Didier Okocha et autres, Vincent Enyama. Même si le Nigeria reste le Nigeria, aujourd'hui, c'est peut-être un épouvantail qui ne fait plus grand peur. Quand on voit un peu les matchs de poule du Nigeria, on se rend compte que ce n'est pas encore la grosse artillerie au niveau de cette équipe-là, Élysée.
Voilà, et en deuxième heure, on aura le très attendu Côte d'Ivoire IDC. Jules, des éléphants miraculés face aux léopards transformés.
Élysée, c'est le match des revenants par excellence entre des léopards du Congo. On serait tenté de dire du Zaïre, tant leur époque de gloire est lointaine, et des éléphants miraculés de Côte d'Ivoire, si on se réfère à leur parcours durant cette 34e édition de la CAN, de l'humiliation équato-guinéenne au sauvetage miracle contre le Mali. Les léopards étaient les rois sans conteste de l'Afrique de la fin des années 60 au milieu des années 70, au plus fort de la domination du tout-puissant Engelbert de Kalala, puis du Vita Club de Kibonge Seigneur, Mayanga et Suiglas, ou l'assassin d'Aï Moulamba. Mais le cuisant désastre du mondial allemand de 1974, avec ce 0-9 contre la Yougoslavie, avait laissé des séquelles durables. Voici qu'un dernier cru, issu des rescapés de la Renaissance Florent Ibengue, et l'arrivée de rudes guerriers comme le Marseillais Chancel Mbemba, remet la mécanique en marche. Face à une Côte d'Ivoire qui revient de l'enfer et a retrouvé ses appétits, la demi-finale de mercredi vaudra le déplacement.
On revient vers vous, Yakuba. Côte d'Ivoire, RDC et Nigeria, Afrique du Sud. Deux affiches qui s'annoncent palpitantes.
Pour ce qui est des demi-finales, d'abord Côte d'Ivoire, RDC. C'est deux équipes similaires, deux équipes de danseurs, comme on le dit, hein, les Ivoiriens savent très bien danser, les Congolais aussi. Et donc, c'est deux équipes similaires dans la mesure où les Congolais ont fait preuve de force mentale, rappelez-vous, devant la Guinée, qui avait marqué aussi d'entrée de jeu. Et les Congolais ont réussi à retrouver les ressources mentales, physiques nécessaires pour revenir dans cette partie-là et de finalement battre la Guinée 3-1. Ça a été une situation similaire pour la Côte d'Ivoire aussi, qui a été menée face au Mali et qui a eu les ressources nécessaires pour revenir après un carton rouge. Je le rappelle encore, les Ivoiriens ont évolué à 10-1 contre 11 depuis la 43e minute jusqu'à la fin du match. Et donc, c'est dire que c'est deux équipes similaires avec des forces assez pareilles. La RDC, amenée par Chancel Mbemba, très expérimenté, qui apporte du souffle dans cette équipe-là, à côté des garçons comme Wissa et autres. Mais aussi la Côte d'Ivoire qui désormais pense que c'est peut-être le destin de presque éliminer à pourquoi pas l'équipe qui va remporter ce trophée-là à domicile. Écoutez, c'est un match très attendu, que ce soit en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo ou partout en Afrique, parce qu'on sait que ces deux équipes qui se valent, ça va se jouer dans une forte tension, dans la mesure où les Ivoiriens vont sans doute remplir les gradins du stade d'Ebempe, Alassane Ouattara d'Ebempe. Et donc, on s'attend à une rencontre très technique, mais une fois de plus, ça va se jouer sur des détails, ça va se jouer sur l'endurance. Il faut être patient, il faut être vraiment patient, il faut tenir jusqu'au bout, il ne faut pas perdre le mot. Il ne faut pas perdre le mental, sinon après, tout s'écroule bien sûr autour de soi. Et donc, on espère que ce sera un match assez plaisant, mais aussi un match plein d'émotions comme on l'a vécu jusqu'ici. Pour Nigeria, Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Sud a fait montre d'une force mentale, montre d'une force physique. Elle a fait montre, ce qui est intéressant avec cette équipe sud-africaine, Élysée, c'est qu'elle n'a pas de joueurs provenant de l'étranger, si vous voulez, dans leur équipe. Parce que ils évoluent tous en Afrique du Sud, dans le championnat sud-africain. C'est ce qui fait la particularité de cette équipe-là. Et c'est ce qui fait aussi que ces garçons-là se connaissent, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble ou les uns contre les autres. Donc il y a une certaine maîtrise entre eux et cela facilite la tâche à ces garçons-là. Bien évidemment, on ne va pas oublier le portier sud-africain énorme face au Cap-Vert avec ses pénalties arrêtées et qui est très jeune, il n'a que 22 ans. Et c'est lui le capitaine de l'équipe. C'est à saluer. Donc c'est dire que le Nigeria qui sera amené par Victor Osimhen et va devoir puiser encore dans ses dernières ressources, dans ses dernières ressources, disons, pour venir à bout des Bafana Bafana. L'équipe du Nigeria avait été décriée juste avant la CAN pour sa défense dite fébrile. Mais écoutez, jusque-là, c'est la meilleure défense parce qu'elle n'a encaissé qu'un seul but. Et donc, c'est dire que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. On a vu Victor Osimhen qui n'a marqué qu'une seule fois durant cette canne-là, mais qui permet à des garçons comme Lookman d'être libérés parce qu'il aspire beaucoup les défenseurs vers lui. Donc du coup, on s'attend à une rencontre très équilibrée. Moi, je le dis, très équilibrée. Il n'y aura pas de domination nigérienne dans cette équipe, dans ce match de ce demi-finale face à l'Afrique du Sud. On s'attend à une rencontre très équilibrée. Et écoutez, une fois de plus, celui qui saura jouer dans les détails, celui qui saura jouer avec sa force mentale, va l'emporter. On le sait, en termes d'expérience, les Nigériens sont beaucoup plus expérimentés parce qu'ils ont des joueurs qui évoluent dans de très grands championnats et qui ont l'expérience de ces matchs-là. Mais une fois de plus, cette CAN a démontré à multiples reprises que jouer dans un championnat très peu élevé ou encore avoir un gros nom ne signifie rien. Il faut tout simplement abattre un travail énorme pour s'en sortir.
Alors Amine, on n'aura pas de classique dans ces deux demi-finales, mais ce sont quatre nations qui ont déjà soulevé la CAN au moins une fois.
Belles affiches, Élysée. On commence par la confrontation entre le pays organisateur et la RDC, c'est celle qui aura lieu le plus tardivement, c'est à 20h GMT, 21h chez moi à Casablanca. Et ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire est un miraculé. La Côte d'Ivoire a envie d'aller au bout de son aventure après avoir été quasiment dans un cercueil à la fin du premier tour. Merci le Maroc et merci cet état d'esprit instauré par Emers Faé qui a permis à l'équipe de se révolter face au Sénégal, de se sublimer devant le Mali. Mais attention, la République démocratique du Congo a des atouts sur le plan technique. Elle est très équilibrée sur toutes ses lignes. Elle a des joueurs sur le plan offensif qui sont capables de faire mal à cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est poussée par tout un peuple. Et la Côte d'Ivoire est capable, après avoir enduré tant de souffrances, de se retrouver en finale. A priori, c'est du 50-50, avec un avantage technique pour les Léopards du Congo et un avantage psychologique pour les Ivoiriens. De l'autre côté, il y a un match où le Nigeria va proposer certainement la même recette que face aux autres équipes depuis le début de la compétition, avec un bloc compact, avec un Osimhen qui est capable de faire la différence, qui se sacrifie pour le collectif, un Lookman qui aujourd'hui est le maître à jouer de cette équipe avec Simon, et beaucoup, beaucoup de discipline. Ce n'est pas la génération des Okocha, Kanu et compagnie compagnie, mais ils sont capables d'aller chercher cette quatrième CAN avec la permission de l'Afrique du Sud et de son sélectionneur Hugo Broos, quelqu'un qui est un maître tacticien qui impose à ses joueurs une discipline de fer. Et aujourd'hui, les Bafana Bafana, en respectant à la lettre les plans de match préparés par leur sélectionneur, sont arrivés en demi-finale. Avantage au Nigeria, mais attention à l'outsider sud-africain.
On reste avec Bouamine. Après son élimination prématurée, le Maroc confirme Walid Regragui à son poste de sélectionneur. C'est normal, puisque la prochaine CAN est à un an et demi.
La prochaine CAN est à un an et demi, puis il y a eu deux annonces tout d'abord. L'annonce avec la confirmation de Walid Regragui, après un débrief avec le président de la Fédération marocaine de football. On maintient la confiance en Regragui, en tenant compte des erreurs qui ont été produite lors de cette CAN, en espérant qu'elle ne puisse plus être à l'ordre du jour. Et puis l'annonce quasiment de la période où aura lieu la CAN, puisque la Fédération marocaine de football maintient le fait qu'elle aura lieu en été, en 2025, après la Coupe du Monde des clubs. Walid Regragui aura pour obligation et pour mission de revoir le style de jeu de l'équipe, d'ouvrir un peu les vannes pour permettre à des jeunes et du 109 de rentrer dans la tanière des Lions de l'Atlas. Et puis, il faudra bien évidemment que le public marocain, qui a été très sceptique après la prestation, et notamment la pauvre rencontre contre l'Afrique du Sud, il va falloir convaincre ses supporters sceptiques, et puis apporter ce zeste de fantaisie qui a manqué à l'équipe du Maroc. Il y aura deux rencontres amicales en mars, et puis il va falloir rebondir sur les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de juin, avec la réception de la Zambie, et un déplacement à Brazzaville pour affronter le Congo. Ce seront deux examens de belles factures pour l'équipe du Maroc, qui va devoir faire taire les sceptiques et retrouver la dynamique qui a accompagné leur exploit lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.
Voilà qui est clair. Merci beaucoup Amine Birouk. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont suivis. On se reprend d'abord mercredi pour les deux demi-finales. On le rappelle, Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RDC. Toute l'actualité sur cette CAN, c'est dans nos différentes éditions de journal Parler et également sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, ainsi que notre site internet voafrique.com. Sur Voafrique, vivez la 34e Coupe d'Afrique des Nations. À lundi prochain pour le bilan. Au revoir.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique. Amor.
cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.